les gardes, vous les sabreurs, les bourgeois, les gavés. V'là la jeune garde, dans la jeune garde, qui descend sur le pavé. C'est la lutte finale qui commence, c'est la revanche de tous les meurs de faim. C'est la révolution qui s'avance, c'est la bataille contre les coquins. Prenez garde, v'là la jeune garde.
République française, liberté, égalité, fraternité. Mairie de Saint-Étienne. À la population, à la faveur d'une réunion privée que je n'avais pas le pouvoir d'interdire et que mes efforts de persuasion n'ont pu faire annuler, des incidents regrettables se sont produits ces jours derniers. Saint-Étienne a vécu des heures douloureuses, rappelant d'autres heures troubles déplorées de tous. Mieux, des déprédations ont été commises contre des propriétés privées ou communales dont finalement le contribuable fera les frais. Adversaire résolu de toute dictature, qu'elle soit de droite ou qu'elle soit de gauche, je réprouve par contre et les violences et les actes de vandalisme. Je fais donc appel à l'esprit de sagesse et de pondération de nos populations laborieuses. Il y va de la tranquillité et de la sécurité publique, comme du développement même des libertés démocratiques et républicaines auxquelles Saint-Étienne est si fidèlement attaché. Saint-Étienne, le 15 juin 1934, le maire, député Alfred Vernet.
Mais que s'est-il passé en 1934 pour que le maire de Saint-Étienne fasse placarder une telle affiche ?
Cette affiche, qui est une affiche officielle en caractère noir sur papier blanc, est apparue sur les murs de la ville au lendemain de deux journées de manifestations quasi émeutières, les 12 et 14 juin 1934. Les informations qui vont nous permettre de retracer les événements évoqués par le maire, quand il écrit « Saint-Étienne a vécu des heures douloureuses », nous les retrouvons dans les trois quotidiens qui paraissaient alors à Saint-Étienne. Le Mémorial, de tendance conservatrice, défendant aussi bien les points de vue de l'Église catholique que ceux du patronat. La Loi républicaine, de tendance radicale, modérée, que l'on pourrait classer au centre droit. Et la Tribune républicaine, de tendance radicale socialiste, plutôt au centre-gauche, qui publie volontiers les communiqués des partis de gauche et des syndicats. Signalons que le directeur de la Tribune républicaine est Louis Soulier, qui fut maire de 1919 à 1930, et qu'Alfred Vernet fut son premier adjoint de 1925 à 1930. Alors, la Tribune républicaine du 13 juin donne les premières informations sous un titre tout à fait évocateur. Une réunion des croix de feu détermine à Saint-Étienne une protestation populaire violemment réprimée, avec en sous-titre « La garde mobile charge la foule ». Avec des photos.
Un tramway renversé à l'angle de la rue de la Bourse, future rue de la Résistance, et de la rue des Jardins, future rue Michel Rondet, renversé mais non tombé, carcalé contre le mur de l'immeuble de l'angle sud-ouest. Une autre donne à voir une patrouille de gardes mobiles à cheval dans la rue du Général Foy, encadrée par deux colonnes de gardes à pied.
Le même jour, le Mémorial de la Loire du 13 juin offre une lecture plutôt catastrophiste. Il insiste sur les désordres. Soirée d'émeute à Saint-Étienne. Sous prétexte d'empêcher une réunion privée des Croix de Feu, les antifascistes manifestent. Violente, désordre et de pillage. Plusieurs arrestations. 50 blessés. Et au point de vue photo ?
Aucune.
Enfin, la loi républicaine du 14 juin offre une autre lecture insistant sur le désordre. La réunion des croix de feu donne lieu à une très vive manifestation qui dégénère en scène de désordre, avec en sous-titre « La garde mobile réprime l'émeute ». La protestation populaire est devenue très vite manifestation qui dégénère en scène de désordre. Quant à la garde mobile, elle ne charge plus la foule, mais réprime une émeute. Et des photos, on en trouve aussi.
Alors, uniquement des clichés des dégradations, nous apprenant au passage qu'il y en a eu également sur le square Waldeck-Rousseau.
Mais, Caroline, revenons à la Tribune républicaine du 13 juin.
L'annonce de cette réunion avait provoqué dans la population ouvrière les mêmes réactions que dans les autres villes. Le maintien de la réunion provoqua des incidents auxquels il fallait s'attendre. Dès 18h, un barrage de gardes mobiles à cheval place du Peuple, un autre place Jean Jaurès, ainsi que des rassemblements de gardes sur divers points éveillaient déjà l'attention de ceux qui auraient pu encore ignorer la manifestation. Lorsque, vers 19h30, une colonne de manifestants approcha de la place de l'Hôtel de Ville par la rue du Grand Moulin, les barrages des gardes mobiles et des agents de police municipale avaient été renforcés par d'importants cordons de cavaliers interdisant toute approche de la place de l'Hôtel de Ville. Une autre colonne de manifestants descendant par la rue du Général Foy, elle se heurta, elle aussi, à des barrages et ceux qui la composaient durent se sauver devant le galop des chevaux. Pendant ce temps, quelques porteurs de cartes voyaient ouvrir devant eux les cordons de la salle Cyrano où de nombreux jeunes gens venus plus particulièrement de Lyon se trouvaient déjà.
Ainsi, deux facteurs ont alimenté la protestation populaire qu'évoque la tribune. Premier facteur, la tenue de ce meeting, qualifié de réunion privée, convoqué par les Croix de Feu, association d'anciens combattants à caractère nationaliste. Ces Croix de Feu qui, le 6 février 1934, il y a aujourd'hui presque 90 ans, avaient appelé leurs adhérents à rejoindre les ligues d'extrême droite pour leur manifestation anti-républicaine à Paris. Depuis, c'est une organisation qui est perçue par les militants de gauche comme une ennemie de la République. Leur réunion provoque donc à Saint-Étienne, comme le dit le texte, les mêmes réactions que dans les autres villes. Le second facteur, l'imposante présence des forces de police, vue par ces mêmes militants comme une protection inacceptable accordée à un mouvement jugé factieux. Cette colère donc donne lieu à une organisation de plusieurs cortèges convergeant vers la place de l'Hôtel de Ville, cortèges qui se heurtent, comme on l'a déjà dit, aux escouades de gardes mobiles. Cette convergence, on peut la voir sur la fiche qui est notée dans que vous trouverez sur le site du Grémos, puisque il est question de cette mobilisation antifasciste et on peut voir en bas de l'affiche l'appel à manifester dans trois lieux différents, rue de Montaut, cours Victor Hugo et rue Cugnot, c'est-à-dire au nord-ouest, au sud-ouest et au sud-est du centre-ville. Et ensuite, donc...
Un peu partout dans la ville, les manifestants refoulés et mécontents donnaient libre cours à leur colère. Place Boivin, les barrières qui entourent la statue de Jeanne d'Arc sont démolies et les barricades dressées avec des planches et des pierres apportées des maisons voisines en démolition. Plus bas, les grilles de la chambre de commerce ont été arrachées, les pavés des rues de la Bourse et Georges Tessier enlevés et jetés un peu partout. Une barricade a été faite avec des grilles, obstacle infranchissable aux cavaliers. Il a fallu des gardes à pied et des agents pour la démolir. À l'angle des rues de la Bourse et Michel Rondet, des manifestants ont couché sur le côté un tramway venant de la place Raspail, dont les vitres ont été brisées. Place du Peuple et avenue du Président Faure, les caisses d'arbustes des cafés et hôtels ont été transportées au milieu de la chaussée.
Prenez garde, vous les sabreurs, les bourgeois, les gavés. Là, la jeune garde, dans la jeune garde qui descend sur le pavé. C'est la lutte finale qui commence, c'est la revanche de tous les meurs de faim. C'est la révolution qui s'avance, c'est la bataille contre les coquins. Prenez garde, là la jeune garde.
Alors, avec le journal du soir qui s'appelle La Loi républicaine, qui publie le 13 son numéro daté du 14 juin, on peut suivre un déroulé quasiment heure par heure.
19h30, c'est l'instant de la première charge. Un trompette a exécuté les sommations d'usage et les chevaux tout aussitôt galopent, brides battues sur le pavé. Le carrefour de la rue des Jardins et de la Grande Artère semble le premier secteur d'offensive des manifestants. Refoulés, ceux-ci regagnent le terrain perdu dès que les cavaliers s'éloignent. C'est un remous incessant, un fiévreux va-et-vient de gens qui s'engouffrent dans les allées les plus proches. Un groupe tassé, à l'autre angle de la rue, des vociférations montent. Hurler à plein gosier, premier symptôme d'une émeute dont nous ne pouvons à cet instant prévoir la violence ni la durée.
Prenez garde, vous les sabreurs, les bourgeois, les gavés. Là la jeune garde, dans la jeune garde, qui descend sur le pavé. C'est la lutte finale qui commence, c'est la revanche de tous les meurtres de faim. C'est la révolution qui s'avance, c'est la bataille contre les coquins. Prenez garde, là la jeune garde.
20h. Repoussés rue des Jardins, les manifestants s'évertuent à jeter à bas une motrice de tramway que ses occupants ont pris la précaution d'abandonner. Une première fois, leurs efforts restent vains. Mais 10 minutes plus tard, la voiture secouée par des poignes brutales sort de ses rails et s'abat dans un majestueux fracas. Les cavaliers chargent à nouveau, les pompiers entrent en scène et les agents traînent au poste les premières prises. Chacun, en somme, s'emploie de son mieux.
Prenez garde, vous les sabreurs, les bourgeois, les gavés. Là la jeune garde, dans la jeune garde, qui descend sur le pavé. C'est la lutte finale qui commence, c'est la revanche de tous les meurtres de faim. C'est la révolution qui s'avance, c'est la bataille contre les coquins. Prenez garde, là la jeune garde.
21h, un nouvel assaut s'amorce place d'Orient. Cette fois, c'est plus sérieux. Les manifestants ont arraché les grilles entourant les arbres. Fractionnées en morceaux, la fonte se brise avec facilité. Elles vont constituer de très dangereux projectiles. Les gardes mobiles ne vont pas tarder à s'en rendre compte. Éperonnent à nouveau les flancs de leurs montures et c'est une succession ininterrompue de charges dans toutes les rues entourant la place.
Prenez garde, vous les sabreurs, les bourgeois, les gavés. Là la jeune garde, dans la jeune garde, qui descend sur le pavé. C'est la lutte finale qui commence, c'est la revanche de tous les meurtres de faim. C'est la révolution qui s'avance, c'est la bataille contre les coquins. Prenez garde, là la jeune garde.
21h30. En direction de la place du peuple, nous apercevons soudain d'inquiétantes lueurs. Ils ont foutu le feu à une auto, entendons-nous de tous les côtés. Ce n'est pas exact. Les manifestants ont tout simplement arraché les palissades entourant la maison Thierry et ont allumé un brasier en plein centre de la place. Lorsque quelques minutes plus tard, un peloton de gardes vient nettoyer le carrefour, des briques lancées du haut de cette même maison, faisant reculer les chevaux et les curieux.
Prenez garde, vous les sabreurs, les bourgeois, les gavés. Là la jeune garde, dans la jeune garde, qui descend sur le pavé. C'est la lutte finale qui commence, c'est la revanche de tous les meurtres de faim. C'est la révolution qui s'avance, c'est la bataille contre les coquins. Prenez garde, là la jeune garde.
Alors ces différents extraits que vous venez de lire, Caroline et Karine, nous montrent la convergence des cortèges annoncé dans l'affiche, qui vise clairement à encercler le dispositif et on peut y déceler une organisation tout à fait mûrie. L'impuissance des manifestants, malgré tout, à obtenir leur objectif, c'est-à-dire l'interdiction de la réunion, excite leur colère et on peut expliquer comme ça la montée de plus en plus forte des dégradations. Surpris par les escouades de gardes mobiles, à cheval, c'est quelque chose qu'on ne voit plus aujourd'hui, de nombreux manifestants sont arrêtés, parmi lesquels des militants et des dirigeants syndicalistes et politiques. Alors, on va essayer de voir maintenant ce que pense le mémorial de ces événements. Et on remarquera que, d'une façon assez malicieuse, le journal de droite renvoie les manifestants à leurs propres contradictions. Lorsque deux jours plus tard, le 14 juin, est organisé un meeting antifasciste, je mets entre guillemets, c'est l'appellation qu'il lui donne, à la Bourse.
Les antifascistes ont pu délibérer à leur aise sans que les adversaires viennent en nombre pour les chasser. Où sont donc ceux qui veulent la liberté de la parole par la violence? Où sont ceux qui respectent les droits de l'homme et du citoyen?
L'importance de la manifestation et du dispositif policier a abouti et devait inévitablement aboutir à une répression tout à fait significative.
De nombreuses arrestations sont opérées. Rue du Treuil, place Boivin, près de la Chambre de commerce, place du Peuple. La plupart des interpellés portaient sur tout le corps des traces très nettes de coups et reçurent les soins éclairés du docteur Favre qui ne quittait pas le poste de la soirée. Les manifestants, blessés par les charges et conduits au poste central de police, appartiennent à toutes les fractions d'avant-garde et à toutes les tendances syndicales. 6 seulement furent gardés à la disposition de la justice. Joseph Frachis, Étienne Fleur, Henri Lorduron, Joseph Vergelat, Dansette et Vial.
Prenez garde, vous les sabreurs, les bourgeois, les gavés. Là, la jeune garde, dans la jeune garde, qui descend sur le pavé. C'est la lutte finale qui commence, c'est la revanche de tous les meurs de faim. C'est la révolution qui s'avance, c'est la bataille contre les coquins. Prenez garde, là la jeune garde.
Alors si je résume tout ce que l'on vient d'entendre, on peut constater 4 choses. Premièrement, une réunion privée a été organisée par les Croix de Feu dans la salle Cyrano. Donc la salle Cyrano, c'est la salle de l'Éden, rue Blanqui. Deuxièmement, les forces de l'ordre sont chargées d'en assurer la protection en installant divers barrages destinés à interdire le centre de la ville aux contre-manifestants. On peut noter au passage que le maire se doutait qu'il allait y avoir des affrontements puisqu'il a essayé, il le dit dans l'affiche, à plusieurs reprises de dissuader la tenue de cette réunion. Troisièmement, les protestataires, qui sont des jeunes ouvriers essentiellement, convergent de différents secteurs, notamment Bourbrun au sud-ouest et le Treuil au nord-ouest. Et quatrièmement, des affrontements qui ont duré au moins 3 heures et se sont soldés par de nombreuses arrestations. Il y a des communistes comme Frachis et Étienne Fleur, mais pas seulement. On peut noter la présence d'Henri Lorduron, qui traduit le rapprochement qui se dessine entre les ennemis d'hier, socialistes et communistes, syndicalistes révolutionnaires et syndicalistes unitaires. On assiste donc ce soir du 12 juin au début de ce qui va devenir le Front populaire.
Bonsoir, ici Karine Pétel en direct depuis les studios de Radio Duo. Bienvenue dans l'émission du Grémos du mercredi 14 février 2024, diffusée sur les ondes de Duo 89.5. Avec Caroline Costil et Jean-Michel Stenner, nous vous présentons les événements qui se déroulèrent au soir du 12 juin 1934 dans les rues de Saint-Étienne. Après les faits et les causes qui les provoquèrent, après un panorama des versions proposées par la presse quotidienne régionale, nous allons désormais vous présenter quel souvenir Camille Pradet, qui était alors très jeune ouvrier, a conservé à la fin de sa vie des événements qui déterminèrent justement son engagement. On l'écoute tout de suite.
On savait que quelquefois, il y avait des bagarres entre les ouvriers et la police. Mmh. Et puis, on apprenait à connaître le nom de Marcel Thibault. Je ne sais pas si tu as entendu.
Oui, monsieur.
Marcel Thibault, nous, c'était notre héros. Il se battait contre les flics. Ouais. Pour nous, c'était notre dieu.
Déjà quand tu étais à l'orphelinat.
J'étais à l'orphelinat à l'époque. Ouais. Je ne savais pas qui c'était, Marcel Thibault. La seule chose que je savais, c'est que c'était l'adversaire des flics.
Alors, Camille Pradet, ça a été un ami. On a travaillé ensemble au mémorial, qu'il a contribué fortement à fonder, puisqu'il a été président de l'Association nationale des anciens combattants de la Résistance pour le département de la Loire. Et donc, je l'ai enregistré en 2002, et je lui ai demandé de me parler un peu de sa vie. Et il évoque dans cet enregistrement des événements vieux alors de 70 ans, aujourd'hui de 90 ans, qu'il n'a peut-être, pas assisté directement aux événements. Il dit qu'il a en entendu parler. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir l'impact que ça a eu effectivement sur, comme tu l'as dit, Karine, que ça a eu sur sa vie. Alors, je vais d'abord essayer de présenter Camille Pradet et son parcours, qui est un peu le parcours emblématique d'un ouvrier stéphanois. Son père s'appelait Victor Alphonse. Dans l'entretien, il s'amuse un peu de ce prénom, un peu vieillot déjà, quand il était jeune lui-même. Donc c'est le fils d'un menuisier et d'une tisseuse. Il est né à Belmont en janvier 1882. Belmont dans la Loire, donc déjà on a ici un exemple parmi beaucoup de ces enfants de la campagne qui viennent travailler à Saint-Étienne à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Il est incorporé en 1903, comme c'était la règle à l'époque, l'année de ses 20 ans, et à cette époque-là il est charpentier, donc on peut supposer qu'il a suivi un peu le métier qu'exerçait son père. Et puis, en 1908, il se marie avec une jeune femme qui s'appelle Étiennette Meillant. Et à ce moment-là, il est armurier. Donc, il a déjà changé de métier. Il est armurier et il travaille dans un de nombreux petits ateliers que l'on trouve dans le quartier de Saint-Roch. Le 21 mai 1909, le couple a eu une fille qui s'appelle Marie-Jeanne, qui est décédée le 27 mars 1923, donc il n'a vécu qu'à peine 14 ans. Alors Alphonse Pradet a été rappelé par l'ordre de mobilisation générale le 2 août 1914 et incorporé pendant toute la guerre dans différentes unités de ce qu'on appelait à l'époque le train. On peut supposer qu'il effectuait des réparations en tant que à la fois métallurgiste et avec son métier de charpentier. Il a été blessé par éclat d'obus au front le 20 août 1917. Alors ce qui est intéressant, c'est que Camille dit dans son témoignage que son père a été gazé. Dans son registre de matricule, on n'en trouve pas vraiment de traces, mais il est certain qu'il est revenu assez diminué de la guerre. Il est libéré début janvier 1919 et il revient à Saint-Étienne. Peu de temps après, son épouse meurt, donc le 27 janvier 1919. Il se retrouve donc veuf, avec une petite fille qui a à peine 10 ans. Le 20 décembre 1919, donc on voit que les choses vont assez vite, il épouse à Saint-Étienne Toussainte Arturia Régis, donc qui est la mère de Camille, et qui est, il nous explique dans le témoignage, née à Philippeville. Alors, il ne sait pas exactement comment se fait que son grand-père s'est retrouvé en Algérie, mais Toussainte Arturia Régis était la fille d'un forgeur, donc encore un ouvrier métallurgiste. Et donc c'est de cette union qu'est née le 27 septembre 1920 Camille et l'année d'après un autre jeune frère. Or, cette famille donc de deux enfants se retrouve brutalement face à la mort du père, le 19 février 1927. Camille dit que c'est des suites du gazage, que j'ai évoqué tout à l'heure. En tout cas, dans le registre de matricule, il est noté qu'il est atteint d'une tuberculose. Alors justement, il discute cette notion de tuberculose, est-ce que c'est une façon de masquer les effets de la guerre. Donc voilà Arturia qui se retrouve veuve avec deux enfants en bas âge et elle se voit contrainte de travailler et de placer ses deux enfants à l'orphelinat.
Alors on va tout de suite écouter le témoignage de Camille.
Et on est parti donc à Lignette. Et ma mère, elle s'appelait Arturia. C'est un nom bizarre, mais enfin. Elle était née le 1er novembre. Elle s'appelait Arturia Toussaint. C'est comme ça. Mais c'est un nom bizarre parce que ça nous a créé beaucoup de problèmes. Parce que quand on allait à l'état civil pour faire des papiers, quand on prononçait le mot d'Arturia, ou bien il ne comprenait pas, ou bien il était mal orthographié. Alors bon. Et on est resté donc, allez, ma mère, elle voulait nous ramener à Saint-Étienne, bien sûr, et nous mettre à l'orphelinat du Ré. Mais pour être à l'orphelinat du Ré, il fallait que mon frère ait 6 ans. Et elle ne voulait pas nous séparer. Alors on a attendu que mon frère ait 6 ans pour aller à l'orphelinat du Ré. C'est-à-dire que moi j'avais 7 ans et demi, et quand il a eu 6 ans, moi j'avais 7 ans et demi. Et ma mère, entre-temps, elle avait trouvé du travail. Elle travaillait à l'hôpital de Bellevue. Elle était rentrée au pavillon 11, vers les enfants, comme veilleuse de nuit. Elle est restée veilleuse de nuit jusqu'à sa retraite, jusqu'à 60 ans. Elle a été en retraite pendant 6 mois, puis elle est morte. On a un peu profité. Et nous, on est restés donc à l'orphelinat du Ré. Bon, ben, l'orphelinat du Ré, c'est très dur. C'était pas un établissement comme maintenant, c'était un établissement. Le problème de l'orphelinat, c'est pas qu'on était mal nourri, on était bien nourri, on était bon. Mais c'était l'encadrement qui était absolument épouvantable. Maintenant, dans un orphelinat ou un centre éducatif, il y a quand même des moniteurs, des gens qui sont. Qui ont une certaine culture, à qui on a appris le métier. Tandis que là, c'était des hommes et des femmes qui, la plupart du temps, c'était des ivrognes, qui étaient bons à rien. C'était des employés de la ville, et qu'on n'osait même pas utiliser dans les services de la ville ou comme cantonniers, tu vois. Alors, c'était des types qui n'avaient aucune considération d'enfants. Pour eux, il n'y avait qu'une chose qui comptait, c'était l'obéissance, la discipline. C'était dur, on te faisait mettre en rang, pas un mot au silence, il ne fallait pas parler, rien du tout, tu pouvais. Et puis ils ne se gênaient pas pour te frapper, mais durement. Je me rappelle une des punitions favorites vers les garçons, puisque je m'étais derrière les garçons. Quand tu étais puni dans la journée, la punition, elle était reportée au soir, quand on allait se coucher. On avait des lits métalliques. Des barreaux métalliques, mais pas des barreaux ronds, des barreaux plats. Et bien la punition consistait à te mettre à genoux sur la barre transversale, pendant une heure, deux heures, sans bouger. C'était très dur, j'en passe, il y en a d'autres. Moi, j'en ai gardé un souvenir absolument épouvantable. Bon, mais qu'est-ce que tu veux, il fallait y passer. Ma mère, elle ne pouvait pas nous garder, elle n'avait pas les moyens de nous garder. Bon, on allait à l'école de la rivière. Et à l'école de la rivière, bon, c'était pas mal. On nous emmenait en rang tous les matins, on allait nous chercher à 11h ou 11h30, on revenait à 1h, 1h30, et puis le soir, voilà, on apprenait pas trop mal. Et puis quand j'ai eu mon certificat d'études, eh bien, j'avais opté pour continuer, et là j'étais à l'école professionnelle. J'avais opté pour aller ce qu'on appelait à l'époque l'école supérieure, qui préparait au métier d'instituteur, qui préparait l'entrée en école normale. Puis j'étais un bon élève, j'avais réussi le premier de l'école de la Rivière au certificat d'études, j'étais le premier. On faisait un classement, donc j'étais pas un mauvais élève. Mais quand j'ai passé l'examen pour rentrer à l'école supérieure, eh bien, j'ai échoué. J'ai échoué parce que j'ai eu un trou de mémoire en arithmétique, tu vois. Un truc bête, idiot, il fallait trouver la surface d'un rectangle en connaissant. Moi, tu vois, mais enfin, c'était un truc vraiment tout simple. Eh bien, impossible d'écrire un chiffre sur ma feuille. J'ai rendu une feuille blanche. J'en étais malade. J'étais pas plutôt dans le couloir, je me suis rappelé ce qu'il fallait faire. Alors j'ai échoué cet examen. D'un côté, je le regrette pas, parce que après, il y avait un examen de repêchage, mais pas à l'école supérieure, à l'école professionnelle. Alors j'ai passé l'examen de repêchage à l'école professionnelle au mois de septembre. Là, il n'y a pas eu de problème, j'ai été admis et je suis rentré à l'école professionnelle. C'est là où j'ai connu d'ailleurs Adorémon.
Tu te souviens quelle année c'était, certificat d'études et examen d'entrée? C'est la même année?
Ça devait être en 32.
Voilà, 1932, donc Camille a 12 ans, passe le certificat d'études. Ce qui est intéressant, c'est de voir cette espèce d'échec qui, 70 ans après, enfin c'est un échec qui l'a marqué. Je rappelle que l'école supérieure, puis l'école normale, c'était la seule voie de promotion sociale pour les enfants d'ouvriers qui devenaient instituteurs. On a un exemple fameux qui est celui de Claude Gisbuard à Saint-Étienne, hein, qui était fils de métallurgiste, mais il y en a d'autres. Donc c'est un échec qui l'a marqué profondément et qui a déterminé le fait que ben, il est resté ouvrier, mais un ouvrier professionnel, puisqu'il va suivre l'école de ce qu'on appelle aujourd'hui le lycée Étienne Mimard, qui était l'école nationale professionnelle. Et donc c'est cet échec dramatique pour lui, parce qu'on imagine tout ce que ça a pu représenter par rapport à ce qu'il a vécu auparavant, à la situation difficile de sa mère. Alors, qui a été obligé de les placer à l'orphelinat. Alors, c'est un orphelinat qui, bon, on connaît bien, on a mis une photo la seule photo qu'on a de l'orphelinat avec les petites filles en uniforme noir. Ils parlent dans son témoignage d'ailleurs de ces pèlerines noires qu'ils avaient quand ils partaient à l'école. En rang, bon, ils parlent beaucoup de l'ordre, de la mise en rang, du silence. Et puis, beaucoup plus dramatique, bien sûr, c'est les sévices qu'ils subissent de la part d'un personnel qui, il le dit très bien, qui n'est pas du tout formé, qui est un personnel qui est là justement pour faire appliquer la règle, l'ordre, qui est un ordre tout à fait sans aucune réflexion pédagogique. Alors, ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on a entendu tout au départ, c'est comment pour ces enfants de l'orphelinat, il le dit à plusieurs reprises, ils doivent discuter dans la cour de ce qui se passe à Saint-Étienne. Ils en entendent parler, sans doute par les enfants de l'école qu'ils croisent à l'école de la Rivière, et puis plus tard à l'école professionnelle. Il entend parler de ces manifestations, et donc il a gardé ce souvenir donc de ces communistes qui se heurtaient à la police dans les rues, et notamment du nom de Marcel Thibault. Alors bien sûr, c'est un témoignage qu'on peut, comment dirais-je, passer au crible de la critique, Caroline, parce que Camille était ensuite membre du Parti communiste, on y reviendra peut-être dans une autre émission, et bon, il a croisé plus tard, avant la guerre et après la guerre, Marcel Thibault. Alors est-ce qu'il n'a pas reconstruit dans sa mémoire ce souvenir? En tout cas, il est certain qu'il a entendu parler de ces manifestations, et en 1934, il est à l'école professionnelle, et il dit bien dans la suite du témoignage qu'ils ont une relative liberté entre la sortie de l'école et puis le retour à la...
Oui, donc il se promène en ville.
Voilà, il se promène en ville, donc il entend parler. Il a On peut très bien imaginer qu'il a assisté à ces manifestations. On peut aussi imaginer qu'il a croisé ces défilés de jeunes syndicalistes et communistes qui sont organisés par le Parti communiste et dont parlent aux archives municipales où tu travailles, Caroline, plusieurs rapports du commissaire central de Saint-Étienne. Alors, je dis deux mots sur le commissaire central, donc Nonon, qui est un commissaire qui est arrivé en 1924 et qui se caractérise par un anticommunisme, on pourra dire, assez solide. Donc il inonde plutôt le maire de Saint-Étienne de rapports sur les organisations des jeunesses communistes. Et alors, le rapprochement qu'on peut faire, c'est qu'en 1934, en janvier 34, puis en avril 34, il envoie deux rapports au maire de Saint-Étienne qui sont des rapports qui dénoncent un peu l'encadrement que les communistes organisent dans les rues de Saint-Étienne. Alors, Caroline, tu peux nous faire part du premier rapport du 20 janvier 34.
Du 20 janvier 34, rapport du commissaire central de Saint-Étienne au maire de Saint-Étienne. Comme suite à mes différents rapports sur le groupe des jeunes pionniers communistes, j'ai l'honneur d'attirer à nouveau votre attention sur ce patronage qui comprend une soixantaine d'enfants dont la plupart sont à peine âgés de 6 à 8 ans. Tous les jeudis et jours de vacances, ces enfants sont rassemblés dans une salle de la Bourse du Travail sous la surveillance de militants communistes tels que Langlais, Fabry, Cotte, Motaz, Louise Borionne, les sœurs Choma, etc. Par beau temps, ces pionniers sont conduits en visite au cercle des cheminots rue Cugnot ou au sporting club ouvrier rue de Monteau. Une réception est aussi organisée parfois. Une cellule de quartier, le Soleil, Côte Chaude, etc. Ces enfants défilent alors par les rues de la ville, porteurs chacun d'un petit drapeau rouge aux armes du PC et de la CGTU. Un plus âgé est en tête du cortège avec une bannière rouge. Plus volumineuse et tous en chœur entonnent des chants révolutionnaires. Le Front Rouge, la Jeune Garde, l'Internationale. Cette exploitation de malheureux enfants sur la voie publique au profit d'une œuvre de destruction sociale a quelque chose d'horrible qui soulève le cœur d'indignation. De nombreuses personnes ont déjà protesté contre les mœurs communistes et peut-être estimerez-vous devoir mettre un terme à cet état de choses qui compromet si fâcheusement le moral et la santé des enfants. Lorsque le temps est mauvais, ces enfants sont rassemblés à la Bourse du Travail. Des moniteurs du type de Langlais, militants communistes, leur apprennent les théories et chants révolutionnaires. Le commissaire central, signé Nonon.
Voilà, donc on voit le vocabulaire qui est utilisé par Nonon, qui parle d'indignation, qui parle de santé morale, qui parle de la santé des enfants. Donc cet homme qui est un patriote, il a fait une guerre assez exceptionnelle, mais un catholique convaincu est totalement choqué par ce à quoi il assiste dans les rues de Saint-Étienne. Et il va donc continuer à envoyer des rapports au maire. Donc un second rapport est envoyé le 27 avril 1934.
Je vais le lire. Donc, rapport numéro 865 du commissaire central de police de Saint-Étienne au maire de Saint-Étienne. 27 avril 1934, donc. Comme suite à mon rapport du 20 janvier 1934, numéro 51. J'ai l'honneur d'attirer à nouveau votre attention sur l'exhibition hebdomadaire des jeunes pupilles communistes qui, chaque jeudi après-midi, parcourent les principales artères de la ville en interprétant des chants révolutionnaires. Il s'agit, en la circonstance, d'une soixantaine d'enfants de 6 à 13 ans environ, tous coiffés d'un béret rouge et portant chacun un petit drapeau rouge, qui suivent par deux une femme et un homme porteurs d'une bannière rouge. Hier, ces enfants ont non seulement chanté l'international, l'avant-garde, etc., mais ils ont conspué M. Alterac, chef de la sûreté, sur un parcours de 100 mètres, en passant rue Wilson. Ils ont même crié « Alterac, assassin !» Il y a, dans ces promenades d'enfants, quelque chose de lamentable, d'indigne, qui soulève la colère publique. J'ai déjà, à ce sujet, reçu maintes protestations. On s'étonne, on ne comprend pas que l'administration municipale tolère un spectacle aussi attristant. J'ai l'honneur de vous demander, monsieur le maire, de vouloir bien envisager l'interdiction de ces manifestations d'enfants de communistes. Le commissaire central, Nonon.
Alors, c'est un rapport qui va dans la suite de celui du mois de janvier. On note la persistance de cette indignation de la part du commissaire et aussi quelques approximations. Hein. La jeune garde, qui est donc le chant qui est chanté de préférence par ces jeunes enfants, devient l'avant-garde dans ce rapport du 27 avril 1934. Alors, tout ceci provoque une montée en tension entre la gauche et la droite à Saint-Étienne, surtout que depuis le mois de janvier, se sont déroulés les événements du 6 février 1934 à Paris, avec des manifestations anti-républicaines par les organisations d'extrême droite, et la réponse de ces manifestations qui était la grande manifestation unitaire du 12 février 1934. Donc commence à apparaître une tendance à se mobiliser contre ces mouvements d'extrême droite et les rapports du commissaire vont susciter aussi une réaction de la part des syndicalistes unitaires et notamment de Marcel Thibault, le héros de Camille Pradet, qui écrit au maire le 9 mai 1934.
Lettre de Marcel Thibault pour l'Union locale des syndicats unitaires de Saint-Étienne au maire de Saint-Étienne, 9 mai 1934. Les journaux nous apprennent aujourd'hui, en des termes provoquants, que les Croix de Feu ont fait une démarche auprès de vous en vue de faire interdire à nos syndicats unitaires la promenade hebdomadaire de nos pionniers. Que sont les Croix de Feu? Or, ces individus doivent savoir. Premièrement, que nos pionniers font la meilleure impression dans la classe ouvrière qui les acclame à chacune de nos manifestations. Deuxièmement, que c'est une véritable insulte à l'adresse de nos syndiqués unitaires que de prétendre que leurs enfants n'ont qu'injure à la bouche. Troisièmement, que nous continuerons les promenades de nos pionniers en prenant toute mesure utile à empêcher la moindre provocation de la part des fascistes. Leur communiqué laisse en effet clairement entendre que ces bandes fascistes pourraient bien tenter un coup de force contre les gosses d'ouvriers et contre nos militants. D'ores et déjà, nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette attitude froidement déterminée et nous vous indiquons qu'à aucun prix, nous ne nous laisserons faire. Elle sera pour nous un motif supplémentaire d'attirer l'attention des travailleurs sur les dangers du fascisme, de combattre ce dernier impitoyablement. En réponse à la provocation des Croix de Feu, la population de Saint-Étienne manifestera en masse dimanche 13 mai en participant à notre grand rassemblement régional antifasciste. Veuillez agréer, monsieur le maire, nos salutations distinguées.
Voilà, donc on voit bien comment depuis le mois de janvier et surtout depuis le mois de février, la tension monte entre les syndicalistes communistes, les militants communistes et les militants d'extrême droite qui ont donc C'est intéressant de remarquer que cette demande d'interdiction formulée par Nonon, elle a été reprise par les Croix de Feu. On peut imaginer quand même qu'il y avait des liens entre lui et les Croix de Feu. C'est peut-être pas venu complètement par hasard. Et donc le 13 mai, manifestation, mais c'est surtout, on voit que dans ce climat de tension, on arrive à cette journée du 12 juin 1934 avec cette manifestation ou cette contre-manifestation à l'organisation d'une réunion des Croix de Feu. Et on comprend bien que le maire a bien senti qu'il allait se passer quand même des choses graves. Et d'ailleurs, au mois de mai, il a écrit un avocat pour lui demander s'il était possible éventuellement d'interdire ces manifestations. Et dans sa réponse, enfin dans sa lettre, il dit lui-même que ça lui semble assez improbable. Je lis l'extrait. À première vue, il me semble impossible d'empêcher la circulation de ces enfants à travers la ville. Une pareille mesure, même si elle était légale, devrait frapper également les sorties des pensionnats, collèges, patronages, groupements de Boy Scouts. Donc, je trouve que c'est assez habile de la part d'Alfred Vernet de renvoyer le commissaire Nonon au fait que son interdiction risque de toucher les associations de jeunesse qui lui semblent tout à fait, elles, dignes de défiler, c'est-à-dire les associations catholiques. Donc on est dans un climat où le côté un peu anticlérical du radical qu'est Alfred Vernet ressurgit. Alors, pour finir, finalement, on pourrait revenir sur cette situation de février 34 à juin 34, où la population stéphanoise, la population ouvrière en particulier, prend conscience du danger fasciste et où commence à se dessiner ce qui va être le Front populaire. Je rappelle que jusqu'en début 1934, même jusqu'au mois de juin 1934, le Parti communiste est dans une stratégie qu'il appelle la stratégie classe contre classe, où il tape beaucoup plus fort sur les socialistes que sur la droite, parce qu'il considère que les socialistes sont dangereux dans la mesure où ils donnent des illusions à la classe ouvrière. Eh bien, c'est dans ce moment-là, entre le mois de février et le mois de juin 1934, qu'il va prendre conscience que cette politique est dangereuse parce qu'elle donne beaucoup plus de latitude à l'extrême droite, comme on l'a vu le 6 février 1934 à Paris. Et donc, petit à petit, le Parti communiste va changer de stratégie et se diriger vers une stratégie d'unité avec les autres partis de gauche, le Parti radical, notamment à Saint-Étienne, et le Parti socialiste. Et donc, le courant de l'année 34 et surtout l'année suivante, en 1935, on va assister à la montée de ce Front populaire qui va permettre l'arrivée en mai 1935 à Saint-Étienne d'une municipalité de Front populaire. Tout ceci se passe bien sûr dans une atmosphère de crise économique. Hein. La crise économique, on sait qu'elle a éclaté en 1929 à New York, mais à Saint-Étienne, en France, elle est surtout sensible à partir de 1931. Et cette prise de conscience du danger fasciste, elle s'accompagne aussi d'une mobilisation des chômeurs, une mobilisation dans laquelle Marcel Thibault a joué un rôle certain, et à l'idée que la crise donc est aussi une crise générale du capitalisme. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec ça, hein. Surtout à partir de 1934, qui est une année où une chanson célèbre va être diffusée, qui est la chanson interprétée par Albert Préjean, qui s'appelle « La crise est finie ».
On dit partout ça ne va pas. La crise par-ci, la crise par-là, on se plaint jour et nuit, on se lamente, on s'ennuie. La crise est la cause de tout, même Crésus est sans le sou. Il gagne du 100%, mais se fait du mauvais sang. Il existe un moyen pour le temps d'être toujours content, c'est de croire que tout est mieux, tout est délicieux, tout merveilleux, et de chanter à Dieu. La crise est finie, la crise est finie, nous vivons dans l'âge d'or. La crise est finie, la crise est finie, oh, crions le bien fort. On voit les jeunes et les vieux jusqu'au pépé chanter joyeux, tra-la-la-la-la, et répéter encore. La crise est finie, la crise est finie, nous nageons dans le bonheur. On dit autrefois, on était heureux comme des rois, la vie était pour rien, et l'on vivait si bien. Le puretin comme le rentier se baladait toujours à pied, l'été pour prendre le frais, dans le train se fait à peu près. Maintenant les petits comme les gros ne roulent qu'en auto, dans les cercles, les casinos, leur fout la faut rien n'est trop beau, car disons le trop haut. La crise est finie, la crise est finie, nous vivons dans l'âge d'or. La crise est finie, la crise est finie, oh, crions le bien fort. On voit les jeunes et les vieux jusqu'au pépé chanter joyeux, tra-la-la-la-la, et répéter encore. La crise est finie, la crise est finie, nous nageons dans le bonheur.
Alors, nous venons d'entendre donc La crise est finie, une chanson interprétée par Albert Préjean, extraite d'une comédie musicale française réalisée par Siod Mac, avec une musique de Jean Renoir et de Waxman sur des paroles de Jean Renoir et de Max Colpé. Et nous avions tout au long de l'émission donc le refrain de La jeune garde, une chanson dont les paroles ont été écrites par Monteus sur une musique de Saint-Gilles, chanson très à la mode chez les jeunes communistes dans les années 30.
Oui, et sur ce refrain de La jeune garde qu'on a entendu, je voulais signaler que on entend « prenez garde, vous les savoir, les bourgeois, les gavés » et que souvent dans les manifestations, les jeunes communistes ajoutaient « prenez garde, vous les savoir, les bourgeois, les gavés » et ils ajoutaient « et les curés ». Nous avons fini pour aujourd'hui.
Eh bien oui, nous arrivons à la fin de cette émission. Donc un grand merci à Caroline Costil et à Jean-Michel Stenner d'avoir été à mes côtés durant cette heure consacrée aux événements du 12 juin 1934 et à l'engagement de Camille Pradet. Je vous donne rendez-vous le mercredi 13 mars à 17h pour la prochaine émission du Grémos. Nous accueillerons Michel Destour de l'ARRH, l'association ripagérienne de recherche historique, pour une émission consacrée au programme du Conseil national de la résistance et de la libération. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle soirée sur Duo. Bye bye.